On est toujours sur Red Cross. Maintenant, nous allons discuter de Erasmus avec Marielle. Bonjour Marielle.
Bonjour. Alors Marielle, tu es chargée de faire vivre le Erasmus à l'Institut régional de formation sanitaire et sociale. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ça correspond, Erasmus, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore?
Alors oui, tout à fait. Donc Erasmus, c'est un dispositif européen qui permet aux étudiants de partir à l'étranger dans le cadre de leurs études pour faire soit un stage, soit une partie de leurs études, un semestre. Je voudrais juste préciser qu'il n'y a pas que Erasmus qui existe et que donc du coup moi je suis responsable du BRI, du Bureau des Relations Internationales.
C'est ça.
Et que ça comprend donc Erasmus qui est une partie, mais plein d'autres choses. En fait, il y a des projets qui ne font pas partie de l'Europe et donc d'Erasmus, et donc qui sont aussi développés pour les étudiants qui voudraient partir ailleurs. Et il y a aussi des projets au sein de l'Europe qui ne font pas partie d'Erasmus, qui sont en fait des collaborations entre universités, voilà, qui se passent pas, qui sont pas financées par Erasmus.
Oui, parce que Erasmus, c'est vraiment des voyages à l'intérieur de la communauté européenne.
C'est des voyages qui sont en Europe. Donc il y a une convention Erasmus qui est ratifiée par tous les pays de l'Union européenne, sauf ceux qui viennent de sortir, c'est-à-dire l'Angleterre, oui. Le Royaume-Uni, et puis les Suisses n'en font plus partie. Voilà, et puis ça marche aussi avec le Liechtenstein, la Macédoine, la Turquie, le Chypre, Malte, et j'en oublie un, et je ne sais plus ce que c'est.
La Norvège, est-ce que ça
fonctionne? Ah voilà, et la Norvège, exactement.
D'accord. Et par contre, si on va aller faire un stage au Brésil?
Eh bien, c'est tout à fait possible, mais ça ne rentre pas dans le cadre d'Erasmus. C'est-à-dire que les étudiants peuvent y aller. Ils n'auront pas les bourses Erasmus, mais ils auront des bourses qui sont proposées par la région, parce que là encore, notre conseil régional est généreux. Et donc, il propose des bourses de 60 euros par semaine pour tous les étudiants qui partent en dehors d'Erasmus.
Ok. Ok.
Et ce stage en Erasmus, comment il s'organise? Est-ce que le lieu de stage est trouvé par l'école? Est-ce que c'est l'étudiant qui doit trouver le lieu de stage?
Alors ça dépend. Du coup, l'école a historiquement des relations internationales qui sont plus ou moins riches. Donc on a des partenariats avec des universités, pas pour toutes les filières. En fait, ça s'est créé grâce à des projets d'étudiants ou des projets de formateurs qui ont voulu partir pour se former, parce que c'est pas un voyage touristique, c'est un voyage pédagogique. Du coup, y a des étudiants qui ont eu des envies de départ, qui ont trouvé des universités, qui ont pris des contacts. Ces universités leur ont dit « Ok, on vous accueille sur un lieu de stage ou pour un semestre ». Et donc nous, on a mis en place un partenariat entre l'université d'accueil et nous. Et c'est comme ça qu'est né ce partenariat. Et il y a certains partenariats qui ont été que pour une fois, et puis d'autres qui sont pérennes et qui vivent encore aujourd'hui.
J'ai ouï dire qu'il y a possibilité de faire des stages au Canada, donc c'est pas du tout dans l'Union européenne. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ce partenariat fonctionne?
Alors du coup, ça c'est, comme tu l'as dit, pas un stage Erasmus, c'est un stage à l'international. Donc les étudiants trouvent les stages. Alors ça dépend des filières aussi, hein. Chaque filière a ses spécificités.
Toi,
aussi.
Le BRI, donc, si je comprends bien, qui n'est pas la brigade de répression je ne sais quoi,
voilà.
Qui est le Bureau des Relations Internationales. Donc toi, tu vas recevoir tous les étudiants de toutes les filières.
C'est ça. Voilà. Alors, on n'a peut-être pas précisé quelque chose d'important. Le BRI, il est constitué, en fait, pas que de moi. Il est surtout constitué des responsables des stages de chaque filière qui, eux, sont en lien direct avec les étudiants pour recueillir leurs souhaits de départ en stage et aussi pour construire leur parcours de stage sur toutes leurs études. Dans ce parcours de stage, il peut y avoir l'envie de partir à l'étranger. Et donc, il faut regarder avec le référent de stage qu'est-ce qui est pertinent au niveau pédagogique, parce que les stages, il faut qu'ils soient validés. Donc il faut que les étudiants puissent acquérir des compétences en stage, et quand ils sont à l'étranger, c'est la même chose.
C'est pour ça que tu différencies bien en fonction de chaque filière objectifs de compétences visés.
Exactement. Donc c'est les responsables de stage en relation avec les référents pédagogiques des étudiants qui construisent ça. Et moi, je suis en fait le support et le soutien de ces référents de stage pour toutes les questions d'ordre financier, donc avec l'agence Erasmus ou avec la région pour les bourses régionales, ou alors pour les contraintes très pratico-pratiques de Covid ou de pays en guerre ou de vaccins ou des choses comme ça. On a aussi des contraintes liées à la Croix-Rouge nationale. La Croix-Rouge fait partir des gens de toute la France, et donc pour des questions d'équité, on ne fait pas ce qu'on veut aussi dans les régions. Donc voilà, moi je suis le lien entre les agences, les financeurs, et puis la Croix-Rouge nationale pour pour organiser la vie internationale au sein de l'IRFS, Centre Val de Loire.
Ok. Ça revient à... c'est cher, les stagiaires internationaux? Parce que les stagiaires Erasmus, finalement, il y a un financement derrière, si je comprends bien.
Ouais.
Mais les stages en international?
Il y a aussi un financement de la région. Alors du coup, les stages Erasmus, il y a des classes. On donne un financement en fonction du pays de départ et du pays d'accueil. Ce n'est pas moi qui fixe ce montant, c'est l'Europe qui fixe une fourchette, en fait. Et puis nous, on voit en fonction de l'argent qu'on a, combien on peut donner aux étudiants. L'année dernière, c'était de 375 euros par mois. Et donc, en dehors d'Erasmus, c'est donc le conseil régional qui finance 60 euros par semaine. Donc c'est pas le même mode de calcul, mais ça fait quand même des petites sommes pour pouvoir partir. Chaque filière demande aux étudiants qui veulent partir un budget prévisionnel, parce que évidemment avec 375 euros par mois, ça couvre pas tous les frais, ni de voyage, ni de déplacement, ni etc. Et donc les étudiants en général, ils ont 1 à 2 ans pour monter le projet, et dans le montage du projet, on leur demande d'évaluer les financements et puis d'essayer de voir comment ils comptent se procurer l'argent pour pouvoir mettre en place leur projet. Est-ce qu'ils travaillent l'été? Est-ce qu'ils vendent des crêpes? Est-ce qu'ils vont emballer des cadeaux à la période de Noël à la sortie des supermarchés? Est-ce qu'il faut une cagnotte en ligne? Enfin voilà.
J'ai une question par rapport aux examens. Je sais que par exemple, dans la formation d'assistante de service social, on peut avoir des examens tout au long de l'année. Comment font ces étudiants pour passer ces épreuves quand ils sont à l'étranger?
Alors, ce n'est pas censé arriver, et c'est pour ça que les étudiants travaillent avec les référents pédagogiques pour que les stages qui sont à l'international rentrent sur des périodes où ça permet une organisation la plus efficace et simple possible pour tout le monde de la scolarité. Donc, les étudiants qui partent, ils partent pas sur des périodes d'examen, ils partent pas sur des périodes où ils ont des rattrapages, ils partent à des périodes où c'est possible, et c'est pour ça qu'on leur en parle dès la première année pour pouvoir trouver le bon moment. Et aussi les préparer à leur dire, en fait, si vous avez un rattrapage, ça compromet aussi votre voyage et ça le, ça en fait, ça sera pas possible, quoi. Pour des questions d'équité, en fait, hein. On peut pas faire un examen en France et puis faire un examen à l'autre bout sans savoir qui surveille l'étudiant et à quoi il a accès. Enfin voilà.
Et est-ce qu'il faut un niveau de maîtrise de langue pour s'engager dans un projet comme ça?
Alors pas du tout. Et moi, je suis vraiment une fervente défenseuse de ce point de vue-là. Les étudiants ont 2 ans en général pour préparer leur projet. Donc au début du projet, il n'y a pas besoin de maîtriser une langue. Par contre, s'ils décident de partir en Finlande, dans un centre de rééducation, il va bien falloir se mettre au finnois un petit peu pendant les 2 ans pour apprendre au moins le béaba. Et ensuite, une langue, ça s'apprend sur place. Moi, je l'ai vécu, donc c'est pour ça que je défends ça. Et donc, c'est vraiment un projet. C'est pour ça que je parle de projet. C'est que ce n'est pas une envie où on part sur un coup de tête et on fait un petit voyage là parce que ça nous fait plaisir. C'est un projet pédagogique et ça demande du travail, et notamment au niveau de la langue. Alors après, il y a des étudiants qui ont des bases de l'école en espagnol, en allemand, en d'autres langues, en italien. Enfin voilà. Et donc, eux, ils vont s'appuyer sur leurs connaissances de lycée et donc ils vont pouvoir... partir et puis se dire ça suffit et puis je vais m'améliorer sur place, et ça marche assez bien d'ailleurs. Et il y en a d'autres, ils ont besoin de se faire une petite remise à niveau avant, et ça fait aussi partie d'une mission, je les accompagne à regarder qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour s'améliorer.
Merci, est-ce que tu vois d'autres choses auxquelles on n'aurait pas abordé sur les questions de l'Erasmus?
Il y a des questions plus loin aussi.
On a Mélissa.
J'ai peut-être une dernière chose à ajouter, qui est que du coup, l'Erasmus, aujourd'hui, c'est un dispositif européen. Nous, il faut être charté. Donc, en fait, ce n'est pas un truc qui se passe comme au rythme des étudiants. En fait, moi, je fais une demande de financement en février pour l'année d'après. Donc, c'est pas les étudiants, on leur demande de construire un projet aussi pour nous pouvoir évaluer combien d'argent on va demander à Erasmus pour permettre ensuite de payer les bourses aux étudiants. Et donc les étudiants qui peuvent partir aujourd'hui, c'est les étudiants, donc c'est pour ça que je parle d'étudiants depuis le début, c'est-à-dire de la formation ergo, assistant social et infirmier. Et depuis le mois de septembre, on est charté pour les formations infra-bac. Donc on a 4 autres formations qui vont pouvoir partir, aide-soignant, auxiliaire de puère, TISF et CESF.
Oh, génial.
Et donc on est en train de travailler avec l'équipe pédagogique pour monter le dispositif pour les accompagner à partir, et l'objectif c'est qu'ils puissent partir à partir de la rentrée prochaine. Et eux, ce sera des modalités un peu différentes. Il y aura plus de bourses pour eux, je ne sais pas encore combien, mais ce sera des aides plus conséquentes, parce que c'est une volonté de l'Europe de favoriser le départ des publics vulnérables, et les formations infra-bac ont été identifiées voilà, comme telle, et donc ça va se mettre en place à partir de l'année prochaine.
Donc moi, je voulais savoir si dans le cadre de ces programmes Erasmus, il y avait des, par exemple des partenariats avec d'autres lieux de formation, d'autres écoles d'infirmiers, d'ergot ou d'assistants sociaux. Et dans ce cas-là, est-ce que ces étudiants-là pourraient éventuellement venir ici, faire un échange en fait, que des étudiants viennent là, et de dire que se passe-t-il si par exemple on a un ressortissant européen ou autre, en tout cas qui a un diplôme européen d'une structure partenaire, est-ce qu'il y a une possibilité de validation de ce diplôme ici?
Ok, alors en fait il y a plusieurs questions dans une question.
Et j'en profite.
C'est la question de Mélissa.
C'est ça. Du coup, on a, j'ai identifié trois questions. Du coup, la première, c'est sur les partenariats européens entre les équipes pédagogiques.
Entre les structures de formation,
ouais,
en fait.
Entre les structures de formation, oui. Donc, en fait, ça, on l'a pas mal chez les ergos. Où, par exemple, avec l'université de Brighton, on a une collègue qui, il y a 7 ans, a identifié une méthode pédagogique qu'elle trouvait intéressante, qu'elle ne connaissait pas. Et donc, elle a été se former à cette méthode pédagogique. Elle l'a ramenée à Tours. Et puis, chaque année, une personne de l'équipe est partie. Et puis, l'équipe a été formée petit à petit à cette méthode pédagogique qui est le problem-based learning, donc l'apprentissage par problème. Et donc maintenant toute l'équipe est formée et l'équipe utilise cette approche pédagogique pour, auprès des étudiants, et on a mis en place un partenariat pour les étudiants. Enfin, en fait ça n'a jamais vraiment marché parce qu'il y a eu le Brexit, enfin tout ça, mais c'était l'idée en fait qu'une fois que les formateurs ont établi leur lien, que les étudiants puissent en profiter. Donc voilà, ça c'est. Et puis on fait ça avec l'université de Berlin aussi. On a un partenariat où on pratique des échanges pédagogiques aussi sur les modalités pédagogiques pour pouvoir les mettre en place. Après, il y avait une deuxième partie sur l'accueil d'étudiants. Et ça, on le fait déjà. En fait, on a chaque année des étudiants qui viennent de Belgique, d'Espagne, du Canada, qui viennent faire des stages chez nous. Donc ça marche vraiment de façon réciproque. Et puis on accueille on accueille plus en tout cas des formateurs d'autres universités partenaires qui viennent donner cours à nos étudiants. Et nous, on peut être aussi amenés, nous formateurs, on peut être amenés à donner cours dans d'autres universités. Donc on part 3, 4 jours, 5 jours, une semaine. Et on va donner cours à leurs étudiants sur quelque chose dont on est expert. Et eux, pareil, viennent donner cours sur une thématique sur laquelle ils sont experts. Et il y avait un troisième point, et j'ai oublié. Troisième point, c'était quoi ?
C'était la validité des diplômes.
Ah oui. Alors ça, c'est encore autre chose. Ça ne fait pas du tout partie du BRI. Quand on est diplômé... alors, je vais parler que pour l'ergothérapie, parce que du coup, je ne sais pas trop comment ça se passe pour les autres. J'imagine que c'est à peu près similaire, mais bon. En tout cas, quand il y a un ergothérapeute étranger qui veut venir travailler en France, il doit déposer un dossier lui permettant de faire reconnaître son diplôme. Et donc, cette commission analyse le programme qu'il a eu, les expériences qu'il a eues, etc. Et puis, elle décide soit de lui accorder l'équivalence, soit de lui accorder l'équivalence sous condition de stage, sous condition de refaire certaines UE, sous condition de... Soit elle décide de ne pas lui valider, et donc la personne doit reprendre ses études d'ergothérapie en France. Et alors, souvent, c'est depuis le début. Et c'est arrivé, c'est le cas pour une de nos étudiantes actuellement qui est en deuxième année et qui a repris ses études depuis le début parce qu'elle avait un diplôme d'un des pays du Maghreb qu'elle avait eu il y a 20 ans. Et en fait, l'ergothérapie a changé en France et ça ne correspondait pas du tout au minimum standard de notre diplôme.
Et pour la filière sociale, c'est la même procédure. Pas forcément avec les mêmes interlocuteurs ministériels, mais voilà.
Même principe.
Voilà, enfin, juste, j'insiste lourdement, mais c'est parce que, en fait, je sais qu'à l'université de Tours, il y a, par exemple, certains masters qui sont, par exemple, un partenariat université de Tours, université de Bochum. Et du coup, c'est un diplôme commun, donc qui est vraiment sur les deux universités, mais qui est valable dans les deux universités. Donc, c'est pour ça que je demandais si, avec quelque chose, par exemple, Brighton, est-ce que dans quelques années, peut-être, il y a quelque chose qui pourrait s'imaginer d'un diplôme commun, ou d'unité, en tout cas.
Je pense pas parce que nous on a des problématiques, des exigences d'un diplôme d'État qui sont pas du tout les mêmes exigences que celles que les exigences universitaires en fait. Et puis ça nécessiterait de construire quelque chose qui est pas encore accessible aujourd'hui, je pense. ouais, les ECTS. C'est une bonne question, Agathe.
Il me semble que c'était avec le processus de Bologne, comment on appelle ça,
le protocole de Bologne
qui cherchait à mettre un peu en synergie les différentes formations supérieures avec l'accréditation des ECTS. C'est une façon aussi de rapprocher les formations en fonction des différents pays de l'Union européenne. Ça peut être une voie pour faire valoir aussi bien dans un passage ou dans l'autre sa formation initiale.
Ouais, alors dans les pratiques, c'est pas aussi évident. Alors moi, j'ai habité en Allemagne et travaillé en Allemagne. Et il a fallu, malgré mes 180 CTS, que je passe par une commission pour faire reconnaître mon diplôme d'État. Ouais. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on nous délivre deux choses quand on est diplômé. Un diplôme d'État d'ergothérapeute qui acte qu'on a les compétences en tant qu'ergothérapeute. Et une licence de 180 ECTS qui dit qu'on a suivi 180 ECTS d'enseignement. Mais en fait, les deux diplômes ne sont pas forcément reconnus de façon liée. Et donc, les 180 ECTS nous permettent de continuer en master. Et par exemple, moi, j'ai fait un master à l'étranger. On ne m'a pas demandé de faire des choses particulières pour reprendre le master. On m'a juste demandé de le traduire en anglais. Bon, voilà, ça a été un détail. Mais bon, du coup, je pense qu'il y a ce truc de diplôme d'État 180 ECTS qui n'est pas clair. Non. Après, il y a des choses qui seront sûrement possibles par la suite, notamment avec le développement des CNU. La CNU 91, bon, ça, c'est un autre sujet, mais c'est au niveau des universités. Il y a une CNU rééducation, réadaptation qui a été créée et dans laquelle rentre, par exemple, l'ergothérapie. Et il y a la CNU des sciences infirmières qui a été créée. Et ça, c'est pour faire rentrer ces métiers dans l'université et permettre, du coup, une reconnaissance universitaire qui pourra être aussi déployée à l'étranger. Bon, c'est un peu technique, mais...
Est-ce que tu peux nous faire part de certaines expériences d'Erasmus ou de stages à l'étranger qui ont eu lieu ? Parce que nous, quand on est ici, on voit souvent des ateliers, des petits marchands qui nous vendent des porte-clés, des attrape-rêves, des étudiants comme ça qui essayent de financer leur séjour. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ?
Concrètement, où est-ce qu'ils partent ? Combien de temps ? D'accord.
Trois exemples comme ça.
Alors, je vais prendre les exemples peut-être des trois filières qui partent jusqu'ici. Donc, il y a les assistantes de services sociaux qui partent. Alors, il y en a qui sont partis au Maroc. Les assistantes de services sociaux, ils partent sur plusieurs mois. Ils partent souvent dans le cadre du programme Erasmus. Et c'est 7 mois.
Ouais.
Donc, c'est quand même une période conséquente. Ils vont dans différents services. Je ne sais pas trop quel exemple vous donner, mais
Là, en ce moment, on a quelqu'un qui est à Mayotte. Alors après, Mayotte, c'est un territoire d'outre-mer, donc elle reste sur une collectivité locale. On a des personnes qui sont parties à Valence.
Au Canada.
Au Canada, c'est sur des associations d'aide aux migrants. Au Canada, on a pas mal de liens avec des associations d'aide aux femmes victimes de violences.
En Espagne aussi.
En Espagne, Valence,
Et puis il y a eu au Maroc aussi deux étudiantes qui sont parties.
Avec un accueil d'enfants en difficulté, tout à fait. Voilà pour la filière sociale, ça existe.
Super, merci Agathe pour les précisions. Après, il y a les étudiants infirmiers qui partent eux 5 semaines en général entre le début février et fin mars. Donc là, ils sont en plein préparatif. Donc ils partent plutôt dans des pays. En dehors de l'Union européenne, l'Erasmus n'est pas encore très développé chez les infirmiers, mais ça ne saurait tarder. Du coup, ils partent en groupe surtout. Ils partent au Cambodge, ils partent au Togo, ils partent au Sénégal, ils partent au Brésil. Enfin, ils partent en fonction des projets qu'ils trouvent. Et eux, ils partent avec des associations. On leur demande de trouver une association sur place qui va pouvoir les encadrer, en fait, d'un point de vue pédagogique et sur le lieu de stage surtout. Et puis les ergos, ils partent en stage pas mal dans le cadre du programme Erasmus. Ils sont partis en Belgique, ils sont partis en Espagne, ils sont aussi partis plus loin. Il y en a une étudiante qui a été au Pérou, on a une étudiante qui a été au Canada. Il y a des...
Dans les îles lointaines, là, ils nous avaient ramené des photos dingues sur des plages.
C'est pas dans les drum-coms, ça ?
Oui, enfin...
Si.
Ça donnait un
film. Avec des tortues, je crois.
Oui, c'est ça.
En Nouvelle-Calédonie ou Nouvelle-Polynésie.
Oui, c'est ça.
Bon, voilà.
Voilà. Bon, très bien.
Eh bien, merci Marielle. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions autour de cette table ?